Pierre-Louis, La femme et le pantin, chapitre 1. Comment un mot écrit sur une coquille d'œuf tint lieu de deux billets tour à tour. Le carnaval d'Espagne ne se termine pas, comme le nôtre, à 8 heures du matin le mercredi des cendres. Sur la gaieté merveilleuse de Séville, le memento quia pulvis est ne répand que pour 4 jours son odeur de sépulture, et le premier dimanche de carême, tout le carnaval ressuscite. C'est le domingo de piñatas, le dimanche des marmites, la grande fête. Toute la ville populaire a changé de costume, et l'on voit courir par les rues des loques rouges, bleues, vertes, jaunes ou roses, qui ont été des moustiquaires, des rideaux ou des jupons de femmes, et qui flottent au soleil sur les petits corps bruns d'une marmaille hurlante et multicolore. Les enfants se groupent de toutes parts en bataillons tumultueux, qui brandissent une chiffe au bout d'un bâton et conquièrent à grands cris les ruelles sous l'incognito d'un loup de toile d'où la joie des yeux s'échappe par 2 trous. Hé, l'homme qui ne me connaît pas, crie-t-il, et la foule des grandes personnes s'écarte devant cette terrible invasion masquée. Aux fenêtres, aux miradores, se pressent d'innombrables têtes brunes. Toutes les jeunes filles de la contrée sont venues ce jour-là dans ces villes, et elles penchent sous la lumière leurs têtes chargées de cheveux pesants. Les confettis tombent comme la neige, l'ombre des éventails teinte de bleu pâle, les petites joues poudrerisées, des cris, des appels, des rires bourdonnent ou glapissent dans les rues étroites. Quelques milliers d'habitants font ce jour de carnaval plus de bruit que Paris tout entier. Or, le 23 février 1898, dimanche de Pifiatas, André Stévenol voyait approcher la fin du carnaval de Séville avec un léger sentiment de dépit, car cette semaine essentiellement amoureuse ne lui avait procuré aucune aventure nouvelle. Quelques séjours en Espagne lui avaient appris cependant avec quelle promptitude et quelle franchise de cœur les nœuds se forment et se dénouent sur cette terre encore primitive, et il s'attristait que le hasard et l'occasion lui eussent été défavorables. Tout au plus, une jeune fille avec laquelle il avait engagé une longue bataille de serpentin entre la rue et la fenêtre était-elle descendue en courant après l'avoir fait signe pour lui remettre un petit bouquet rouge avec un « merci beaucoup, monsieur » jargonné à l'andalouse. Mais elle était remontée si vite, et d'ailleurs, vue de plus près, elle l'avait tellement désillusionnée qu'André s'était borné à mettre le bouquet à sa boutonnière sans mettre la femme dans sa mémoire. Et la journée lui en parut plus vide encore. 4 heures sonnèrent à 20 horloges. Il quitta la Sierpes, passa entre la Giralda et l'antique Alcazar, et par la Calle Rodrigo, il gagna les Delicias, Champs-Élysées, d'arbres ombreux le long de l'immense Guadalquivir peuplé de vaisseaux. C'était là que se déroulait le carnaval élégant. À Séville, la classe aisée n'est pas toujours assez riche pour faire 3 repas par jour, mais elle aimerait mieux jeûner que se priver du luxe extérieur qui pour elle consiste uniquement en la possession d'un landau et de 2 chevaux irréprochables. Cette petite ville de province compte 1500 voitures de maître, de forme démodée souvent, mais rajeunie par la beauté des bêtes, et d'ailleurs occupée par des figures de si noble race qu'on ne songe point à se moquer du cadre. André Stévenol parvint à grand-peine à se frayer un chemin dans la foule qui bordait des 2 côtés la vaste avenue poussiéreuse. Le cri des enfants vendeurs dominait tout. « Des œufs !» C'était la bataille des œufs. « Des œufs ! Qui veut des œufs ? À 2 sous la douzaine !» Dans des corbeilles d'osier jaune s'entassaient des centaines de coquilles d'œufs, vidées puis remplies de confettis et recollées par une bande fragile. Cela se lançait à tour de bras comme des balles de lycéens au hasard des visages qui passaient dans les lentes voitures, et Debout sur les banquettes bleues, les caballeros et les señoras ripostaient sur la foule compacte en s'abritant comme ils pouvaient sous de petits éventails plissés. Dès le début, André fit emplir ses poches de ses projectiles inoffensifs et se battit avec entrain. C'était un réel combat, car les œufs, sans jamais blesser, frappaient toutefois avec force avant d'éclater en neige de couleur, et André se surprit à lancer les siens d'un bras un peu plus vif qu'il n'était nécessaire. Une fois même, il brisa en deux un éventail d'écailles fragiles. Mais aussi qu'il était déplacé de paraître à une telle mêlée avec un éventail de balles. Il continua sans s'émouvoir. Les voitures passaient, voitures de femmes, voitures d'amants, de familles, d'enfants ou d'amis. André regardait cette multitude heureuse défiler dans un bruissement de rire sous le premier soleil du printemps. À plusieurs reprises, il avait arrêté ses yeux sur d'autres yeux admirables. Les jeunes filles de ces villes ne baissent pas les paupières et elles acceptent l'hommage des regards qu'elles retiennent longtemps. Comme le jeu durait déjà depuis une heure, André pensa qu'il pouvait se retirer et d'une main hésitante, il tournait dans sa poche le dernier œuf qui lui restait, quand il vit reparaître soudain la jeune femme dont il avait brisé l'éventail. Elle était merveilleuse. Privée de l'abri qui avait quelque temps protégé son délicat visage rieur, livré de toutes parts aux attaques qui lui venaient de la foule et des voitures voisines, elle avait pris son parti de la lutte et, debout, haletante, décoiffée, rouge de chaleur et de gaieté franche, elle ripostait. Elle paraissait 22 ans, elle devait en avoir 18. Qu'elle fût andalouse, cela n'était pas douteux. Elle avait ce type admirable entre tous, qui est né du mélange des Arabes avec les Vandales, des Sémites avec les Germains, et qui rassemble exceptionnellement dans une petite vallée d'Europe toutes les perfections opposées des deux races. Son corps, souple et long, était expressif tout entier. On sentait que, même en lui voilant le visage, on pouvait deviner sa pensée et qu'elle souriait avec les jambes comme elle parlait avec le torse. Seules les femmes que les longs hivers du Nord n'immobilisent pas près du feu ont cette grâce et cette liberté. Ses cheveux n'étaient que châtain foncé, mais à distance, ils brillaient presque noirs en recouvrant la nuque de leur conque épaisse. Ses joues d'une extrême douceur de contour semblaient poudrées de cette fleur délicate qui embrume la peau des créoles. Le mince bord de ses paupières était naturellement sombre. André, poussé par la foule jusqu'au marchepied de sa voiture, la considéra longuement. Il sourit en se sentant ému, et de rapides battements de cœur lui apprirent que cette femme était de celles qui joueraient un rôle dans sa vie. Sans perdre de temps, car à tout moment le flot des voitures un instant arrêté pouvait repartir, il recula comme il put. Il prit dans sa poche le dernier de ses œufs, écrivit au crayon sur la coquille blanche les 6 lettres du mot « quiero » et, choisissant un instant où les yeux de l'inconnu s'attachèrent aux siens, il lui jeta l'œuf doucement de bas en haut comme une rose. La jeune femme le reçut dans sa main. « Quiero » est un verbe étonnant, qui veut tout dire. C'est vouloir, désirer, aimer, c'est quérir et c'est chérir. Tour à tour, et selon le ton qu'on lui donne, il exprime la passion la plus impérative ou le caprice le plus léger. C'est un ordre ou une prière, une déclaration ou une condescendance. Parfois, ce n'est qu'une ironie. Le regard par lequel André l'accompagna signifiait simplement « J'aimerais vous aimer ». Comme si elle eût deviné que cette coquille portait un message, la jeune femme la glissa dans un petit sac de peau qui pendait à l'avant de sa voiture. Sans doute, elle allait se retourner, mais le courant du défilé l'emportait rapidement vers la droite et d'autres voitures survenant, André la perdit de vue avant d'avoir pu réussir à fendre la foule à sa suite. Il s'écarta du trottoir, se dégagea comme il put, courut dans une contre-allée, mais la multitude qui couvrait l'avenue ne lui permit pas d'agir assez vite.